Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h02, vous êtes sur RMC, RMC Story, c'est la dernière partie d'Estelle Midi avec Rémi Barré, avec le journaliste de Marianne Péricolégas, Emmanuel Dancourt qui va revenir sur le plateau d'ici un instant, et on est également avec le chef du service culture de Valeurs Actuelles, Laurent Dandrieux. Dans un instant, on va parler du début des épreuves du bac de français pour 535 000 élèves de première, mais le bac sert-il encore à quelque chose? Donnez-nous votre avis au 3216 et sur l'appli RMC, dites-nous si vous voulez absolument que vos enfants aient le bac, ou si vous, vous n'avez pas le bac et que vous avez quand même une vie assez formidable. Il y aura les immanquables, Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
On parlera notamment de Perrier, qui a de nouvelles apparemment difficultés avec ses sources d'eau minérale.
Encore
eh oui. Et puis on parlera aussi des premiers accords conclus entre les Républicains et les Macronistes, ça y est, pour les législatives.
Et puis il y aura le coup de cœur de la semaine, ça ce sera à 14h30 pour un camion piscine itinérant qui permet aux enfants d'apprendre à nager, même si leur commune ne dispose pas de piscine.
C'est RMC Estelle Midi.
14h03 sur RMC, on continue Estelle Midi avec le chiffre du jour. 535 000 élèves de première viennent de passer leur épreuve écrite du bac de français. En 2023, 90,9% des inscrits au bac ont obtenu leur diplôme. Et ça pose évidemment la question de l'importance aujourd'hui du baccalauréat. Rémi, est-ce que les Français y sont toujours attachés?
Symboliquement, oui, mais concrètement, plus vraiment. Ouais. D'après une étude Odoxa, seul un quart des personnes interrogées considèrent encore que le bac est une clé indispensable pour entrer dans le monde du travail. C'est surtout le cas des 18-24 ans. 18-24 ans, ils sont 34% à estimer que le bac est important pour entrer dans le monde du travail, mais cette impression change rapidement avec l'âge. Parmi ceux qui considèrent l'épreuve comme inutile, ils sont quand même 16%, les 25-34 ans sont particulièrement nombreux, eux qui affrontent les premières désillusions professionnelles. De même, les CSP- montrent une certaine désillusion aussi quant à l'utilité de ce diplôme. Et d'autres chiffres vont mal, ou en tout cas vont dans le même sens. D'après une étude de l'INSEE, plus de 18% des jeunes bacheliers sortis depuis 1 à 4 ans du bac sont au chômage. Au fil du temps, le bac, en fait, serait devenu simplement une opportunité qui ouvre les portes soit aux grandes écoles, où les chances de réussite restent souvent minimes, soit à l'université, au sein de laquelle un tiers des étudiants échouent dès la première année.
Alors, le bac sert-il encore à quelque chose, Péricolégas? Vous l'avez ou pas?
Oui, je l'ai eu avec mention bien.
Très bien.
J'avais pas beaucoup travaillé, c'était un peu injuste que j'ai une si grande note. J'ai fait du triomphalisme, voilà. Et je suis arrivé d'ailleurs premier de mon établissement. J'ai eu la chance de tomber sur les bonnes questions au bon moment. Mais c'était quand même, Estelle, c'était quand même un examen qui avait une valeur, qui était un enjeu, et c'était un passage obligé pour les études supérieures. Aujourd'hui, c'est dramatique parce que ça reste quand même le certificat de fin scolarité. C'est un certificat de présence. Voilà, on sait qu'au moins l'élève a fait sa période scolaire dans des conditions normales. Il a été totalement dévalorisé. De façon très étonnante par un ministre de l'éducation qui était Jean-Pierre Chevènement, qui a dit qu'il faut 80% d'une classe d'âge. C'est-à-dire le contraire du principe du bac.
Mais oui.
Le bac est là et c'est terrible. C'est une sélection pour que les plus méritants et ceux qui ont le mieux travaillé soient distingués des autres. Et plus on a de seuil de tolérance, plus on envoie sur le marché du travail des gens qui sont pas au niveau. Donc on a tué le baccalauréat, pour utiliser son bon mot. Et ça se ressent aujourd'hui terriblement dans les niveaux scolaires, dans l'éducation nationale et à l'université. On a des gens qui donc peuvent franchir ce seuil alors qu'ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas la compétence. Et pour vous dire, pour avoir souvent et continuer à rencontrer des gens qui ont le bac depuis quelques temps, je peux vous dire que le niveau scolaire, je ne sais pas si c'était mieux avant. En tout cas, c'était quelque chose.
Là, j'ai l'impression que oui, quand même.
Là, il n'y a plus rien. Y a plus rien.
Emmanuel Dancourt, vous avez 4 enfants. Est-ce que vous les poussez à avoir le bac, ou est-ce que vous faites partie de ces parents qui disent, en fait, si t'as pas le bac, c'est pas très grave. Tu peux quand même être quelqu'un et réussir dans la vie.
Non, on n'en est pas.
J'en ai deux moi qui passent le bac là. Hein, les jumeaux, ils viennent de le comprendre. Ils se sont dit, tiens, si on révisait la philo, c'est mardi. Alors, est-ce que je les pousse? Oui, parce que c'est notre système qui est foutu comme ça. Mais oui et non, parce que le petit dernier vient de me dire qu'il voulait être cuisinier. S'il veut aller faire un CAP cuisinier, il va faire un bac pro.
Il a plus intérêt à faire un CAP cuisine, d'ailleurs, qu'un bac mathématique.
De toute façon, le bac, il vaut... Enfin, moi, je... Alors pour le coup, c'est rare, mais alors vraiment, c'était mieux avant, quoi. Ça vaut plus rien du tout. Et aujourd'hui, c'est la fac. Bien sûr que je l'ai. Mais tu vois, moi, j'ai le syndrome de la bonne élève, donc, ouais. Mais, aujourd'hui, c'est la fac qui fait le travail que faisait le baccalauréat de notre époque à nous. Avant, à la fac, tu allais chercher ton dossier, tu faisais la queue, tu ressortais avec ton papier, tu étais inscrit. Il n'y avait pas de sélection à l'entrée de la fac, ça donnait son...
Bah non, parce que la sélection, c'était le bac.
Voilà, la sélection avait déjà été faite, en tout cas en partie par le bac. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Donc aujourd'hui, c'est la fac qui fait la sélection. Donc on attend toujours de rentrer en fac. Bah, moi, j'ai déjà parlé d'ici. Hein. Je suis très en colère contre ce bac. Je suis très en colère contre Parcoursup parce que mon gamin, il a toujours rien, celui dont je vous ai déjà parlé.
Ah bon?
Qui fait filière sélective, ok, géopolitique, mais quand même avec d'excellentes notes. Toujours rien. Régionalisation qui n'a pas fonctionné, ce qu'à Dijon, on n'a pas géopo. Donc voilà, il est derrière d'autres gens moins bons que lui dans d'autres régions. Donc je suis très en colère contre ça. Et puis surtout, ce qu'on n'a pas compris en France, et là on a été très très mauvais, contrairement à l'Allemagne qui est toujours le pays qu'on cite là-dessus, mais on a été très mauvais avec l'apprentissage. On a plein de gamins qu'on n'a rien à foutre d'avoir le bac, et ils ont bien raison, s'ils veulent entrer dans des filières d'excellence, mais manuel, autre chose, que ce soit la cuisine, la ferronnerie, il y a beaucoup de métiers, aujourd'hui on gagne très 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 bien sa vie dans l'industrie où il manque du monde.
Où il y a de la demande.
Et sachant qu'il y a de l'Erasmus pour les apprentis, on le dit jamais, il y a un programme génial et on pousse pas nos enfants là-dedans. Donc moi clairement, si le petit veut partir en apprentissage, il part en apprentissage vu ce que vaut notre bac aujourd'hui, franchement. Bon,
Laurent,
la situation ma pauvre Estelle.
Laurent Dandrieux, est-ce que les épreuves devraient être plus sélectives au bac ?
Oui, parce que moi j'y attache quand même une assez grande importance au bac, parce que je crois au rite de passage.
Voilà.
Et je pense que c'est un rite de passage qui a son importance, mais il est évident que ce rite de passage, il est dévalorisé si ça devient une pochette surprise où on gagne à tous les coups et quasiment tout le monde l'a. Je pense que de toute façon, il faut effectivement, à part effectivement ceux qui vont en apprentissage, pousser les gamins à l'avoir, parce que malgré tout, le niveau du bac est tel aujourd'hui que si moi je voyais arriver un CV avec quelqu'un qui n'a pas le bac, je me dirais, oula, il doit être grave quand même celui-là.
Oui. C'est vrai, de ne pas l'avoir aujourd'hui, c'est quand même très, très handicapant.
Ça veut plus dire quelque chose de ne pas l'avoir que de l'avoir. Voilà. Sauf si tu as fait le choix de ne pas le passer.
Voilà. Alors effectivement, du coup, comme il est dévalorisé, probablement pour le passage en université et tout cela, on s'attache plus au contrôle continu. Mais du coup, ça déplace le problème, parce que je pense qu'il y a une pression terrible des parents qui est en train de se mettre en place sur les écoles au niveau du contrôle continu, parce que attention, n'allez pas saboter l'avenir de mon enfant en lui mettant des mauvaises notes. Donc du coup, on va avoir un contrôle continu qui lui aussi va être faussé. Donc je pense qu'il est très important, et de toute façon c'est une problématique qui dépasse c'est celle du bac, c'est-à-dire qu'on a perdu dans ce pays la culture de l'excellence et il faut réintroduire cette culture.
Ça, c'est très clair.
Et il faut réintroduire de l'exigence dans tous les domaines et y compris dans le bac.
Et surtout, ils l'ont déjà. Moi, les miens, ils l'ont déjà le bac. Donc là, ils vont passer la philo. C'est pour ça qu'ils révisent pas. Ils sont, ouais. Et donc, il y en a un, il sait déjà qu'il part à Strasbourg faire ses études d'art. L'autre, il attend toujours de savoir il va faire ses études. Mais en réalité, ils l'ont déjà. Comment tu veux te motiver sur quelque chose que t'as déjà et qui n'est plus le rite de passage dont parlait très bien Laurent, qui était l'entrée dans la vie adulte, en fait.
Mais moi, je me souviens, mais alors que bon, j'étais quasi sûre de l'avoir, mais je veux dire, j'ai tellement stressé, j'ai tellement eu peur. Je suis allée voir les résultats.
C'était un enjeu.
J'avais que j'avais réussi, mais je suis quand même allée voir la petite feuille devant l'entrée du lycée
sur la vitre.
Mais bien sûr. Mais oui. Et tu faisais une fête de malade mentale derrière. Ah, c'était vraiment, t'avais l'impression de devenir
adulte. T'attendais la mention.
Mais aujourd'hui, mais quand je vois, mon fils a passé le bac français ce matin, mais oui, c'était comme le tien. Il serait allé en cours, c'était pareil. Quoi.
Moi, j'ai un neveu qui est brillant. Hein. Il a dit, je prendrai le commentaire, comme ça m'évite de réviser.
Oui, c'est pareil. À la maison. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de manque de motivation, alors que nous, on avait tellement peur.
Et puis, on révisait dès le mois de mars, dès le mois d'avril, on révisait.
Mais oui,
mais là, ils sont là.
Moi, je peux dire, j'ai vérifié ses stylos et machin, il était mort de rire à côté. Mais bon, mais voilà, mais c'est.
La phrase
c'est une autre époque.
La phrase qui tue, c'était passe ton bac, d'abord.
Ouais. Bien sûr, passe ton bac d'abord.
Et après, on verra.
Et après, on verra. Mais pas d'abord ton bac.
Et puis, il y a des gens très bien qui n'ont pas eu le bac, Rémi.
Absolument. Mais j'ai trouvé toute une liste, non exhaustive. Pierre Bérégovoy n'avait pas le bac.
Oui, ça, c'est
Christian Estrosi n'a pas le bac. Ah, oui. Bernard Tapie n'avait pas le bac. François Pinault n'a pas le bac. Michel Drucker, Michel Denisot, Sébastien Loeb, Jo-Wilfried Tsonga, Zinedine Zidane, Omar Sy, Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, Alain Delon, Fabrice Lucchini, Benoît Magimel, Mélanie Thierry, Vanessa Paradis, Jean-Paul Gaultier n'ont pas le bac. Et puis plus loin, bon, le bac n'était pas au même niveau qu'il l'est peut-être aujourd'hui, mais Émile Zola, on le cite souvent, André Malraux, Guillaume Apollinaire ou encore Jean Cocteau n'ont jamais eu le bac.
Mais je veux dire, mes parents, quand même. Attends, moi, je suis la première de ma génération dans ma famille à avoir le bac, hein. Et ils ont tous eu des vies très bien, sans avoir le bac.
Pierre Bérégovoy, enfin, Christian.
Oui, ils ont réussi leur vie aussi dans ma famille.
Alors, il y en a, ça se voit. Ça se voit. Mais bon.
Alors, on a beaucoup de témoignages au 32-16. On a notamment celui de Greg. Greg, qui nous appelle de Cheptainville, dans l'Essonne. Bonjour, Greg.
Joli.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous avez le bac, Greg ?
Non.
D'accord.
Je l'ai eu, pardon.
Ah bon, alors.
Ça a tellement de valeur.
Je crois bien que oui.
Je ne pas l'avoir puisque je l'ai eu parce que je l'ai passé. Maintenant, je m'en suis jamais servi. Donc.
Vous en êtes jamais servi, oui, mais.
C'est très bien aussi comme phrase.
Ça vous a permis de. Vous faites quoi dans la vie ?
Maintenant, je suis à mon compte, menuisier, depuis un peu plus de 5 ans.
Oui, c'est vrai qu'un bac en menuiserie, ça ne sert pas à grand-chose. Moins qu'un CAP ou un BEP, j'imagine.
Si j'avais été orienté, on va dire, avec une forme d'apprentissage comme ça existe aujourd'hui, je ne sais pas, il y a 10 ans, si ça existait, maintenant, je sais que ça se fait, parce que j'ai eu des apprentis qui s'orientent comme ça maintenant. Mm-hmm. J'aurais pu le faire à l'époque, j'aurais été content de le faire. Mes parents m'ont poussé à passer le bac parce que...
C'est ça, ça se faisait.
Va passer ton bac et on verra après, parce qu'à l'époque, c'était considéré comme ça.
C'est ça.
Si tu n'as pas ton bac, tu n'as rien. Oui, moi, t'auras des bâtons dans les roues dans la vie. C'est comme ça que c'était à l'époque, en tout cas, c'était un peu sacralisé, je pense, le bac, pour que nos parents aient ce discours-là. Enfin, moi, mes parents, voilà, j'ai 32 ans, donc 64, 65. Je pense que à l'époque, l'apprentissage, c'était pas mis en avant comme aujourd'hui. Enfin, il y avait peut-être les compagnons, Tour de France, etc., mais c'était pas ça. Et en tout cas, c'était pas dans l'esprit des parents.
Mais vous, Greg, aujourd'hui, est-ce que vous dites j'en ai rien à faire d'avoir le bac, ou il y a quand même une petite fierté? Et est-ce que vous poussez vos enfants à avoir le bac?
Moi, je pousserai à aucun moment. Je pousserai mes enfants à avoir leur bac. Je sais que si j'avais eu à le refaire, j'aurais préféré le refaire peut-être avec d'autres examens que le bac. Enfin, je parle de l'apprentissage parce que je sais que c'est des choses. Moi, maintenant, qui fais un métier technique, je sais que la menuiserie, mais comme on va dire tout dans le bâtiment aujourd'hui, dès qu'on peut mettre les mains dans quelque chose de technique. Dès le plus jeune âge, on voit si on a la fibre ou pas assez vite. Et enfin, moi, en tout cas, j'ai fait face à des apprentis qui en voulaient et qui en voulaient pas. C'est-à-dire des lycées où on voit que les élèves sont suivis, ou des élèves où on les prend encore plus tôt que 18, même 16 ans.
Bien sûr.
Et on voit que les élèves, ils ont envie et en fait, ils ont tout de suite la fibre du bois. Enfin, au moins,
ils ont envie parce que c'est leur choix, en fait. Et c'est sûr que c'est mieux de faire ce que veulent les élèves que d'aller les pousser à faire un bac et après les études longues pour lesquelles ils ne sont pas faites. Merci beaucoup, Greg, en tout cas, d'avoir été avec nous. Donc, vous, le bac, vous en fichez totalement, Greg, mais c'est pas le cas de Nanou. Nanou, elle nous appelle de Nancy et elle est téléconseillère. Bonjour, Nanou.
Bonjour.
Et Nanou, vous, je crois que c'est une fierté d'avoir le bac.
Oui, c'est effectivement une fierté, comme j'ai expliqué. Je l'ai passé 3 fois au total avant de l'avoir. J'ai été motivée à l'avoir, mais comme ça a été dit sur le plateau, au début, c'était vraiment des parents, il faut le bac pour réussir, etc., etc. Et comme Emmanuel, je suis la première pourtant de ma famille à l'avoir eu. Et je le voulais pour moi, même pas pour les autres ou pour la suite ou autre, je le voulais pour moi. La seule chose, c'est que j'ai vraiment choisi ma filière, parce que j'ai fait un bac L. Et malgré une première échec, un deuxième, je l'ai eu quand même. Et la troisième année, puisque normalement ça se fait pas au lycée, tout ce qui était examen de la première année, donc français, sciences, ben, je les ai repassés toute seule, donc tous les cours toute seule. Et pourtant, ça a été bénéfique parce que comme j'avais des problèmes de santé, ce qui fait que j'ai été loupée les 2 premières fois, moi qui avais normalement, je sais pas comment, 5 de moyenne à l'année en littérature, j'ai réussi à taper le 17 au bac.
Ah, génial.
Je sais toujours pas comment. Et non, encore aujourd'hui, non, je suis contente parce que je l'ai fait vraiment pour moi. Et même si j'avais quasiment un peu plus de 20 ans, je l'ai pour moi quand même.
Et moi, je trouve ça génial parce qu'on sent énormément de fierté dans votre voix, voilà, de fierté d'avoir eu le baccalauréat. Nanou, vous dites que vous êtes la première de votre famille à avoir le bac. Est-ce que, je sais pas si vous avez des enfants, mais si vous en avez, est-ce que vous allez les pousser à avoir le baccalauréat ou au contraire leur dire tu fais bien ce que tu veux?
Non, j'ai pas encore d'enfants. Par contre, si effectivement ils veulent le faire, je pousserai. je les accompagnerai, surtout je les motiverai. S'ils veulent toute autre chose, parce que je vois mes petits frères et sœurs, eux c'était plus bac pro et ils sont épanouis quand même. Je suis. Je mettrai pas la pression comme moi j'ai pu l'avoir. Il faut le bac. Et non, je soutiens selon les choix. Parce que effectivement, il n'y a plus forcément besoin d'avoir le bac selon les emplois, avec la mode d'aujourd'hui sur les emplois en ligne. On les demande pas forcément.
Ouais. Et puis l'alternance.
S'il y a besoin vraiment par la suite, ils feront candidat libre puisque ça existe.
Exactement.
Voilà.
Et merci beaucoup Nanou en tout cas d'avoir été avec nous. Et on a des messages également sur l'appli RMC. Ça sert à quelque chose le bac ou pas, Rémi?
Beaucoup en tout cas relativise. Samira nous dit bonjour, je n'ai pas le bac, je suis heureuse. C'est Sam, pardon. J'ai des compétences sociales professionnel, mon expérience me permettra de valider mes métiers, je me cultive de mon côté, bonne journée et merci d'avoir traité.
Elle fait des validations d'acquis, c'est ça qu'elle dit?
Oui, absolument, et elle nous souhaite une bonne journée, elle dit et merci de traiter de ce sujet parce que j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'un certain nombre de personnes qui nous écrivent qui n'ont pas le bac, qui doivent être, en tout cas ressentir un petit sentiment de gêne par rapport à d'autres, la majorité aujourd'hui c'est abandonné, mais il n'empêche que beaucoup revendiquent leur bonheur et leur joie.
Et c'est pour ça que je t'ai demandé de et c'est vrai tout à l'heure au bureau de donner cette liste de gens qui n'avaient pas le bac pour dire qu'en fait on n'est pas forcément plus intelligent quand on a le bac et on peut réussir quand on n'a pas le bac. Il y a aussi plein de sportifs de très très haut niveau
qui n'ont
pas le bac. Oui, mais tu peux être un très bon cuisinier sans étoile Michelin.
On est bien d'accord.
Voilà. Notre invité sur ce débat, c'est Maxime Repair. Il est vice-président national du SNALC, le syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur. Bonjour Maxime.
Bonjour Estelle. Bonjour
et merci. Et merci d'être avec nous. Alors ça va être intéressant que vous répondiez à cette question. Est-ce que le bac sert encore à quelque chose?
Oui, il sert encore à quelque chose. Alors le bac a été très malmené ces dernières années, notamment avec des réformes au lycée et au collège qui ont, pour beaucoup, nivelé le niveau par le bas. Et pour autant, le bac a encore du sens. Deux choses. Tout d'abord, c'est un examen national. Ça, c'est un premier point. Et ça, c'est très, très important. Même si on injecte de plus en plus de contrôle continu, il est indispensable que le bac demeure une épreuve nationale, un examen national, pour des questions d'égalité et d'uniformité de la qualité de l'enseignement. Et puis, la deuxième chose, c'est que pour des études supérieures, pour faire des études supérieures, eh bien, vous avez besoin du bac.
Oui, c'est vrai, voilà. Bien sûr. Oui, si vous voulez faire médecine, par exemple, c'est sûr que si vous n'avez pas le bac, ça va être compliqué, quoi.
Ça va être compliqué. Maintenant, après, il y a une forme de banalisation, de dépréciation du bac dans l'opinion. On peut le voir à plusieurs niveaux. J'ai parlé des réformes il y a quelques instants. Il y a aussi le fait que quand vous avez une très forte obtention d'un diplôme, ça peut, sur le marché de l'emploi, j'ai envie de vous dire, déprécier la qualité du diplôme parce que c'est plus difficile de se démarquer des autres, même si.
Mais est-ce qu'il faut pas le rendre, est-ce qu'il faut pas le rendre plus difficile, le bac, franchement? On en voit tous des gens qui ont eu le bac et on se dit, mais enfin, c'est pas possible. Il l'a eu dans une pochette surprise. C'est quand même hallucinant.
Je pense qu'il y a un gros problème en France, dans notre pays, qui a duré pendant des décennies, depuis plusieurs générations, sur la question de l'orientation. C'est que parfois, on a demandé, y compris, par le discours de parents, on a dit aux élèves, il faut qu'ils fassent ceci alors qu'ils avaient choisi différemment. Donc on a déprécié par exemple les filières professionnelles qui sont très, très porteuses en termes d'emploi au détriment du général. Ce qui fait qu'il y a quelques dizaines d'années, le bac sur le marché de l'emploi, j'entends, avait une valeur sans parler forcément d'études supérieures.
Et aujourd'hui, il n'y en a plus.
Vous regardez, c'est bac plus 3, bac plus 5, etc. Mais je pense que...
Vaut mieux avoir un BEP, qui soit dans une filière, n'importe quelle filière déjà, mais qui soit spécialisé, qu'avoir le bac.
Nous sommes extrêmement attachés au niveau de mon syndicat, au niveau du SNAP, nous sommes extrêmement attachés au baccalauréat et nous sommes pour l'exigence.
D'accord.
Il faut un diplôme qui soit... Et un enseignement, au passage, qui soit plus exigeant pour les élèves.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'exigence, comme l'excellence, soit considérée comme des gros mots. Ce n'est pas le cas. On a nivelé par le bas pour des questions de statistiques. On a vu au niveau du collège ce que ça a donné avec le brevet. Qui sont les premiers à en payer les frais? Ce sont les élèves.
Je suis d'accord.
Tout simplement.
Eh ben merci beaucoup en tout cas Maxime Repère, voilà, il faut que le bac soit plus exigeant, plus difficile et puis il faut peut-être aussi orienter différemment. Merci d'avoir été avec nous. On a Sam également en ligne qui nous appelle de Saint-Dié-les-Vosges et qui est artisan dans le BTP. Bonjour Sam.
Bonjour à tous.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous avez le bac Sam?
Ah non, moi j'ai pas le bac. Pour moi, je vois pas l'intérêt d'envoyer autant de personnes au bac. Pour moi, c'est dès la troisième des collèges qu'il faudrait faire déjà un premier tri. Donc moi, fin de quatrième, on m'a orienté sur une... J'avais des capacités, mais j'étais un cancre. On va dire. Donc du coup, on m'a envoyé en troisième DP6, donc découverte professionnelle 6 heures. Donc moi, j'avais 6 heures par semaine où j'apprenais à faire des CV, à réviser sur Word. On pouvait partir en stage. On avait 3 sessions de 2 semaines de stage dans l'année. Et donc ça nous fermait l'accès au général, hein, j'en avais bien conscience. Mais du coup, suite à ça, un petit peu avant mes 16 ans, je suis parti en alternance. Donc j'ai fait un CAP électricien sur 2 ans.
Ouais.
Je suis sorti, j'ai eu mon premier boulot.
D'accord. Et à quel âge ça?
Du coup, à 18 ans. D'accord. Un petit peu avant mes 18 ans, j'ai eu mon premier boulot, j'ai passé le permis de conduire, j'ai eu ma camionnette. J'ai voyagé partout en France pour faire des chantiers. J'ai aussi bossé un petit peu à l'international. J'ai eu la chance de rentrer dans une très grosse entreprise qui normalement prenait niveau bac, mais apparemment j'avais la gueule de l'emploi, avec un petit CAP, et voilà, et du coup, arrivé à 26 ans, et ben, j'ai créé ma propre entreprise, et
formidable.
J'en ai 28, et je suis artisan, et je pense que...
Vous avez des salariés, Sam?
Alors non, j'avais un apprenti, mais il a décidé d'arrêter parce que ça lui plaisait pas.
D'accord.
Avoir des salariés, honnêtement, j'ai le travail pour en prendre. J'ai beaucoup trop de travail, mais trouver des gens qui tiennent la route et surtout avec la conjoncture actuelle, la crise du bâtiment qui s'annonce,
c'est vrai.
Et puis les charges que ça coûte, faut savoir tout ce qu'on nous pompe. Moi, à 26 ans, quand j'ai ouvert, on m'a dit tu verras ce que c'est. Maintenant, ça sera à refaire, je le ferai plus. Hein. Mais c'est une expérience de la vie. Et ce qu'il faut, c'est dire aux jeunes, venez dans le BTP, électricien, plombier, chauffagiste.
Il y a plein de boulot.
Et c'est des métiers qui payent. Moi, je suis sorti de l'école, je faisais 1 650 € net par mois à 18 ans.
Et là, vous êtes à combien, Sam? C'est un peu indiscret ce que je vous demande, mais...
Artisan dans le BTP, allez, on va tourner dans les 2 000 à 3 000 €.
Ouais, d'accord, voilà. Donc c'est... Okay. C'est un salaire de prof, quoi.
Ouais, on n'est pas payé, enfin voilà, si je fais le prorata de mes heures, de mes 12 heures de chantier par jour, plus après le bureau, je suis moins payé qu'un chinois. Hein. Mais voilà, c'est un peu le problème en France. On dénigre l'artisanat, les artisans, on se fait ponctionner de partout, 48 d'URSSAF, 33 d'IS,
c'est les indépendants.
On a un impôt sur le revenu. Moi, je donne 90% de ce que je touche à l'État, mais merci Macron, ça me fait plaisir, c'est pour moi. non, mais voilà, c'est pour ça, mais venez, les gens dans le bâtiment, il y a du boulot, il y a de l'argent à prendre, franchement, on gagne très bien sa vie dans le bâtiment.
Et on vous sent hyper heureux, Sam, hyper épanoui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on termine avec Ludivine qui nous appelle de Sérignan dans l'Hérault. Bonjour Ludivine.
Bonjour à tous.
Et Ludivine, vous êtes maman de 6 enfants, c'est ça?
6 enfants, famille recomposée. 4 à moi et 2 avec mon mari. Mais ça fait 6, hein, c'est pareil. C'est la même chose, c'est les mêmes soucis.
Et ils ont passé le bac déjà ou pas?
Alors moi j'en ai 3 grands, oui majeurs, donc j'ai 3 bacheliers, j'ai 3 petits qui sont primaires et le plus grand qui va rentrer au collège là en 6e.
Et c'est important pour vous Ludivine que les enfants aient le bac?
Mais moi en fait le plus important c'est de savoir ce que nos enfants sont capables, veulent. Déjà ouais. D'une. C'est ça en fait le plus important. Je vais pas. J'ai mon fils aîné qui lui a toujours aimé l'école et je galère avec Parcoursup, qui a toujours eu des très très bons résultats, qui
bien
a eu
mieux au club.
Pas 17 ans. Et j'ai mon beau-fils que j'aime beaucoup, qui lui on lui a forcé, je n'avais pas la main dessus, qu'on lui a forcé à passer le bac, qui n'aime pas l'école. Et que je pense que quand il était tout petit, il voulait être mécanicien moto, ce qui est très bien, ce qui est
super.
C'est des très beaux métiers. Mais non, la maman a décidé qu'il fallait qu'il passe le bac. Comme beaucoup, j'ai des amis très proches. Il faut qu'il passe le bac pour être kiné, mais lui, il veut travailler. Et voilà, en fait, c'est ça le problème. Je me dis qu'en tant que, déjà, en tant que parent, déjà, qu'on comprenne nos enfants, ça veut pas dire qu'ils sont bêtes, hein, de faire du.
Mais bien sûr que non.
Et en fait, on a l'impression que c'est ça. Faut que tu passes le bac, et on verra après. Et dès qu'ils ont passé le bac, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Bah, rien.
Parce que je voulais être mécanicien, je voulais être électro, je voulais être cuisinier, je voulais être. Et en fait, là, c'est plus, voilà, c'est plus le côté maman en colère où je me dis, au bout d'un moment, il faut déjà qu'on écoute nos enfants. Et peut-être que les professeurs aussi, donnaient pas le bac à tout le monde, quoi. Moi, mon mari me dit, on a donné le bac à mon fils. Pourquoi il a eu le bac? Non mais il faut être honnête. Faut être honnête. J'ai beaucoup d'enfants autour de moi. Ils ont le bac. Les parents sont étonnés.
Bah oui, parce qu'on les voit rien faire pendant toute l'année et après ouais. Effectivement tu vois qu'ils ont le bac, tu te dis mais comment c'est possible, parce
donc
que
on a fait mine moyenne
et parce qu'on se on se rappelle aussi comment nous on a bossé ou pas d'ailleurs, mais il y a 25-30 ans et on comprend pas effectivement qu'aujourd'hui il y ait 90% d'une classe d'âge qui est le bac et parmi ces 90% il y en a plein en fait qui n'ont rien à faire là et qui vont être malheureux parce qu'ils sont pas faits pour les études longues et qu'on peut être très intelligent et fait pour les études courtes ou pour pas d'études du tout d'ailleurs. Merci beaucoup Ludivine, on va voir ce que ça donne au niveau de notre sondage, Rémi.
Ouais, on vous a posé la question, le bac sert-il encore à quelque chose? Bah, c'est le nom qui l'emporte, c'était un peu la tendance, un nom pour 64% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Ah, ça sert que si tu veux faire des études longues. Ouais. Ensuite, dans un instant, il y aura le coup de cœur de la semaine. Bah oui, on est vendredi, et c'est un coup de cœur pour un camion piscine itinérant qui permet d'apprendre nos enfants à nager, même si leur commune ne dispose pas de piscine. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 14h31, nous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et tout de suite nous sommes vendredi, et c'est le coup de cœur de la semaine, c'est parti.
RMC,
le coup de cœur d'Estelle Midi.
Et c'est un coup de cœur pour un camion piscine itinérant qui permet d'apprendre aux enfants à nager, même si leur commune ne dispose pas de piscine. Et le fondateur d'Aqua Itineris France, c'est la société qui fait ça, c'est Olivier Totti, et il est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour Estelle et bonjour toute l'équipe. Merci bonjour. De m'accueillir.
Alors merci beaucoup d'être avec vous Olivier. On a trouvé votre idée absolument géniale. La première question qui se pose, c'est est-ce que vous vous déplacez partout en France ?
Complètement. Aujourd'hui, on est à Plouerdut, dans le Morbihan, en Bretagne. On était juste avant dans le Pas-de-Calais, et auparavant, on était dans les Bouches-du-Rhône. Vous voyez, on sillonne toute la France.
Et alors, qui vous demande, en fait, ce sont les particuliers, les écoles, les collectivités ?
Alors, on vient à la demande des collectivités, principalement. Ici, dans le 56, dans le Morbihan, c'est les PEP 56, c'est une association qui nous a fait venir. Mais d'accord. Globalement, c'est toujours en rapport avec les collectivités, puisqu'on vient occuper une petite place sur un parking du territoire, et puis on vient se raccorder à l'eau et l'électricité de la commune pour pouvoir exercer notre travail.
Alors justement, j'allais vous demander comment ça se passe. En fait, vous arrivez avec votre camion, avec vos maîtres nageurs, votre eau, et vous mettez sur un parking, et là, vous apprenez aux enfants à nager ?
Complètement, c'est exactement ça. On vient stationner au plus près des écoles, voire carrément dans la cour d'école.
Génial.
Pour être au plus près, c'est une salle de classe en fait, une salle de classe aquatique qu'on vient proposer en complément de ce qui existe déjà dans l'école. Et on vient stationner le camion, on le raccorde électriquement, on le raccorde au réseau d'eau. On remplit le camion, on fait chauffer l'eau, on accueille les enfants, et une fois qu'on a fait passer tous les enfants de l'école, eh ben, on vidange, on rend l'eau à la collectivité qui nous l'a prêtée, et puis on repart.
Incroyable.
Mais c'est génial. Mais alors, en fait, ça ressemble un peu, finalement, votre camion piscine aux piscines qu'on trouve, dans les clubs de plage, quoi, où on apprend souvent à nager, en fait.
Alors, ça pourrait ressembler un petit peu à ça dans l'esprit, mais ça va encore plus loin. En fait, on est une micro-piscine municipale. C'est-à-dire que dans notre camion, on a les vestiaires. On a la douche, on a les sanitaires, on a l'infirmerie, on a le local technique pour tout le traitement d'eau, et puis bien sûr, on a notre bassin qui est un petit peu particulier.
Mais alors, ça doit être énorme ce camion quand même, parce que la taille d'une piscine, c'est pas tout petit une piscine.
C'est un bassin qui fait 8 mètres par 2.
D'accord.
Et qui a une profondeur que l'on fait varier avec un plancher. C'est un plancher réglable. Ça nous permet d'accueillir les enfants avec 5 à 10 cm d'eau pour pas qu'ils aient peur de l'eau.
5 cm d'eau.
Exactement. Et puis, au fur et à mesure de nos leçons, on va descendre la profondeur du bassin. De telle sorte qu'ils n'aient jamais peur et qu'on les mette dans la meilleure situation pour pouvoir apprendre. On a de l'eau qui est bien chaude, ils n'ont pas peur et ils apprennent très vite parce qu'ils sont en petits groupes. On les accueille par petits groupes vu la taille du bassin. On est quasiment sur du cours individuel.
Ah mais c'est absolument génial. Et alors, vous avez appris à combien d'enfants à nager depuis le début ?
On passe à peu près 700 à 800 enfants par an. Ah, et on a commencé en 2019.
Et on va rappeler que la noyade est la première cause de cause d'accident mortel en fait chez les moins de 35 ans. Et il y a encore trop d'enfants bien sûr qui ne savent pas nager en France. Il faut combien de leçons pour savoir apprendre à nager ?
Alors pour l'éducation nationale, dans leur prescription, ils annoncent qu'il faut une dizaine voire une douzaine de séances. Nous on estime qu'il y a déjà avec 6 séances, on a acquis l'aisance aquatique pour les plus petits, c'est-à-dire les grandes sections de maternelle par exemple.
Et si on veut vous contacter justement Olivier, si là il y a des écoles qui nous écoutent, ça coûte combien aujourd'hui en fait de louer entre guillemets un camion piscine ?
Alors, pour nous contacter, il faut contacter, bien sûr, l'association via les différents réseaux. Hein. Aqua Itineris, ça s'écrit A-Q-W-A Itineris. Donc, Aqua Itineris France, vous nous retrouvez comme ça. Et le budget pour nous faire venir varie essentiellement en fonction de la durée. On vient au minimum pour 2 semaines. Il y a certains territoires où on reste 6 semaines. Et les budgets varient, on va dire, de 20 000 à 30 000 euros, suivant les situations. C'est un budget qui est important pour une collectivité, surtout puisqu'on va surtout dans les zones rurales, des petits villages, des petites communes. Mais on essaye avec eux de trouver des partenaires financiers qui payent une partie de la note. On a par exemple un accord avec le groupement de transporteurs Trade Union qui prend en charge une partie de la note.
Bah, c'est absolument génial, Olivier. Et puis, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça minimise aussi le trajet, parce que vous avez plein de communes où, effectivement, les cours de piscine, quand vous avez le gymnase qui est à une demi-heure de marche, et bah, déjà, vous perdez une heure, aller au gymnase, alors que là, c'est directement dans l'école. En tout cas, bravo pour cette initiative, Olivier Totti, le camion piscine qui se déplace partout en France. Ça s'appelle Aqua Itineris France. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas. Il fallait pas rater aujourd'hui, on a un très très gros sommaire. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h40, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, et c'est la dernière partie de l'émission. Et voici tout de suite les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Avec Rémi Barré, Perico Légas, Laurent Dandrieux et Emmanuel Dancourt. Et il ne fallait pas rater, Rémi, l'accord du jour.
Oui, les premiers accords entre LR et macronistes commencent à tomber. Un accord entre des républicains et des responsables du camp présidentiel ont ainsi été conclus dans les Hauts-de-Seine pour les prochaines législatives, évidemment. Avec cet accord qui concerne notamment les candidats Gabriel Attal et Stéphane Séjourné, l'actuel ministre des Affaires étrangères. LR et la majorité présidentielle comptent conserver 9 sièges macronistes et un député LR.
Est-ce que c'est une bonne chose, Pierrico Légas, ces accords? Enfin, on a quand même l'impression que LR n'existe plus. C'est-à-dire que soit ils sont avec les macronistes, soit ils sont avec le RN, quoi.
LR était déjà, j'allais dire, philosophiquement explosé depuis très longtemps. Je peux même parler depuis 2012. Et aujourd'hui, ils ont trouvé avec cette dissolution l'occasion concrète de se répartir et de se redistribuer en fonction de leur affinité. Même au PS, il y avait ça. Il y avait, on allait de Jean-Marie Bockel jusqu'à Mélenchon. Voilà. On a vu que tout ça a explosé. Et les républicains, il y avait trop d'écarts idéologiques, philosophiques, de sensibilité politique. Donc, on a, en gros, un tiers qui va vers la droite nationale. Et puis, on a 2/3 qui va vers le libéralisme bontain de la Macronie.
Sauf que le groupe, LR à l'Assemblée, pour en prendre un sacré coup. Parce que on va voir comment ça se passe. C'est, maintenant, c'est sur le plan judiciaire que Éric Ciotti reste ou pas. Il faut savoir quand même que les ténors des LR ont dit que tous ceux LR aujourd'hui qui se rallieraient au RN seraient exclus du parti.
Oui, bien sûr.
Donc, même si t'as un candidat LR, ex-LR, j'allais dire, qui est adoubé par le RN, il fera pas partie du groupe LR à l'Assemblée.
Bien sûr.
Ça va être très compliqué parce qu'ils vont combien
vont-ils
avoir
de
députés à l'Assemblée.
Ça va être intéressant de voir s'ils vont appliquer la même rigueur vis-à-vis des LR qui auront dealé avec la Macronie.
Je ne crois pas, non.
Parce que une des raisons pour lesquelles ils ont viré Ciotti, c'était qu'ils disaient non, mais ça va à l'encontre de notre politique. On s'était tous mis d'accord pour aller à la bataille sous nos propres couleurs sans aucune alliance. Bon, on voit que effectivement du côté de la Macronie, ça tient pas trop. Gérard Larcher, pas plus tard que ce matin, démentait toute négociation avec les macronistes. Bon, c'est quand même le bal des hypocrites, cette affaire.
Dès lors qu'ils avaient perdu 70 personnes, les LR qui étaient partis chez le RN, il reste déjà plus personne.
Ça dure depuis longtemps, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin.
Ce ne sont pas les députés sortants qui ont suivi.
Les
transfuges sont anciens. Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Gérald Darmanin et d'autres qui sont.
C'est pas le bal des hypocrites, c'est l'arc républicain.
Exactement. C'est une bonne nouvelle ou pas, justement?
Il n'y a pas de flèche.
C'est finalement une autre alternative, voilà, peut-être au front de gauche.
C'est toujours une bonne nouvelle quand il y a la pluralité de vote. C'est toujours une bonne nouvelle. Après, on regarde ça.
Mais là, c'est un parti qui disparaît.
C'est surtout.
C'est l'ancien parti.
Oui, il avait déjà disparu.
C'est pour ça que je vous dis ça.
Il y a un parti qui est en train de disparaître. Oui, c'est clair.
Enfin, après, ça date pas d'hier.
C'est surtout une bonne nouvelle pour nous, parce que toutes les 10 minutes, il y a un nouveau sujet qui tombe, et depuis la dissolution, on s'en dit pas.
Le PS,
franchement, dans l'actu. Perdant, hallucinant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris ce qui est l'essence même de la vie politique sous la Ve République, c'est qu'un parti ne peut pas exister sans incarnation. C'est-à-dire, ouais, vous aviez un président de parti qui disait « je ne serai pas candidat à la présidentielle », et vous aviez le candidat soi-disant naturel qui s'est enfermé dans le silence, donc c'était un parti qui était incarné par personne, et du coup ça peut pas marcher.
Ils avaient quand même, encore une fois, je reviens, j'insiste, mais ils avaient quand même 100 députés,
oui, oui,
donc, LR ou apparentés LR à l'Assemblée.
74.
Là, 74.
Non, ils avaient 95 élus pour les Républicains et 5 apparentés divers droites. C'est ça. Qui s'étaient qualifiés. Voilà.
Qui étaient d'accord sur à peu près sur rien.
Non, mais on est d'accord, mais là aujourd'hui, de candidats LR, combien va-t-il en rester?
Bah, 10 et encore.
Donc, s'il est un bilan absolument évident que l'on peut reconnaître au président de la République française, c'est qu'il aura depuis 2017 tué deux partis, les Républicains, c'est-à-dire le RPR et le Parti Socialiste. Mission accomplie.
Sauf qu'il a tué le parti dont il a besoin pour faire une majorité.
Mission accomplie.
Mais voilà. En tout cas, on se dit que d'habitude, alors, il y avait quand même 38 listes aux dernières européennes. Alors là, on se dit, s'il y a 4 listes ou 5 listes, ça va être, c'est hallucinant. Il y a un gros serment qui est incroyable.
C'est un scrutin uninominal à deux tours.
Mais j'entends, merci. Mais n'empêche qu'avant, il y avait plus de listes. Là, le choix est extrêmement réduit. Avant, t'avais 5 listes de gauche, t'avais 3 listes de droite.
Aux États-Unis, ça se passe comment? Aux États-Unis, t'as la gauche et la droite. Basta.
Non seulement il est réduit, mais il est polarisé. C'est-à-dire qu'on sait, il y aura des petits candidats, mais on sait très bien que.
Général de Gaulle doit quand même faire un petit peu ventilateur dans sa tombe.
C'est pas la première fois.
Pas pour les frères.
Le nom du jour.
Le nom du jour dénommé les Olympiades depuis 1992. Hein. Une petite entreprise de vente d'articles de sport située dans le Nord est menacée de poursuite par le comité d'organisation des JO de Paris 2024 et ce pour violation de la propriété intellectuelle. Le nom Olympiades a en effet été déposé officiellement par le CIO. Le patron de cette société nordiste qui compte 11 employés explique avoir reçu une mise en demeure de la part du COJO qui lui laisse 20 jours à partir du 30 mai pour changer la raison sociale de l'entreprise.
Mais en vrai, c'est vraiment ridicule.
Non, mais je veux dire, hein, il a 11 salariés. C'est pour déposer un nom à l'INPI. Le prix varie en fonction tu le déposes. L'INPI, oui, ça se dépose en France, en Europe ou à l'international. Ça varie aussi si tu le déposes juste dans ton industrie ou si tu le déposes dans toutes tes industries. Donc ça peut aller jusqu'à 2000 balles. Moi, je me suis déjà fait piquer un nom comme ça d'une émission qui s'appelait Nous ne sommes pas des anges, qu'on n'avait pas déposé dans ma chaîne de télé.
Et Canal Plus nous l'a piqué.
J'en étais pas.
Canal Plus nous l'a piqué le nom parce que on l'avait pas. Je l'avais déposé moi en mon nom, mais j'avais pas pu le déposer. Non, j'avais pas oublié, je l'avais fait, mais j'avais pas pu le déposer avec des 1000 et des et Canal Plus nous a piqué le titre à l'époque, on n'a rien pu faire.
Mais là, c'est vrai que c'est un peu hard, quoi. C'est une petite société. Ils en ont à faire.
C'est immonde, franchement.
Oui, c'est une violation totale de l'esprit olympique.
Il me semble pas ça.
Mais là, dans le Mercosur, on a l'impression que c'est une multinationale qui fait un procès.
Ça serait le seul cas. Dans ma tête, j'ai l'impression de voir le mot Olympiade partout, dans des enseignes, des centres commerciaux, Non.
Il y a la station Olympiade sur la ligne 14. Ils vont pas débaptiser le quartier non plus. Attends, mais t'imagines.
Ils peuvent les attaquer. Oui. Chaque habitant du quartier.
Oui, c'est à ça que je pensais. C'est la station qui était descendue aux Olympiades. Oui. Je me suis dit, ils vont pas nationaliser quand même, c'est pour ça.
Bah écoute, je l'algorithme, ça va, je ne sais plus. Le blâme du jour.
C'est une première en France. Un magistrat a écopé d'un blâme de la part du Conseil supérieur de la magistrature qui avait été saisi par un justiciable. Pourquoi? Pour avoir trop tardé à boucler une affaire dont ce magistrat était en charge. Malgré une requête du procureur demandant le renvoi d'une personne mise en examen devant le tribunal judiciaire, et plusieurs alertes adressé par sa hiérarchie, ce magistrat incriminé n'avait pas trouvé le temps de faire le nécessaire pour que cette demande aboutisse. Ça durait depuis 3 ans.
Et ben moi, je trouve ça formidable, Perico Légas.
Vous vous rendez compte la jurisprudence que ça ouvre?
C'est génial, mais tant mieux.
Les dossiers.
Et tant mieux, Perico.
Ça va serrer les fesses, hein.
Tant mieux. Il y a des procès qui durent des fois pendant des années, en fait. Et c'est des appels sur appels, sur appels, sur appels. À un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. C'est pas possible, en fait.
La lenteur de la justice. Je suis déjà dénoncé par Shakespeare dans Hamlet, quand même. Mais c'est très bien parce qu'effectivement c'est un scandale, mais en même temps il faudrait connaître ce cas particulier pour savoir si ce magistrat était vraiment le principal responsable de l'affaire ou si il est victime de l'incurie de l'État qui ne met pas assez de moyens.
Apparemment, il y a eu plusieurs reprises, il y a eu des alertes. D'accord. Qui lui ont été adressés par sa hiérarchie.
Par sa hiérarchie.
Disant, bon. Là, ça okay. fait quand même deux ans et demi maintenant. Faudrait...
Autant
il y a
je
le procureur
suis...
qui autant... a adressé une alerte. Bon, il n'a pas réagi apparemment.
Autant je suis tout à fait favorable à ce qu'on sanctionne ces retards incroyables, autant il ne faudrait pas que la hiérarchie, justement, se défausse sur les sous-fils.
Je suis complètement d'accord. On l'accuse d'avoir manqué de diligence et de loyauté vis-à-vis de ses collègues et de délicatesse vis-à-vis des victimes. Nous, à MeToo Media, on a un cas. La mise en examen date d'il y a 10 ans.
Hein?
Ouais. Et toujours pas de procès. Ça coupe la prescription.
Mais on est sûr qu'il y aura procès ou pas?
Alors, a priori, c'est en train d'arriver, mais au bout de 10 ans. Tu te rends compte, la victime, ça fait 10 ans qu'elle attend qu'il y ait un procès.
C'est bonjour quand on te rappelle. Il a raison de rappeler les faits. Tu vois,
la justice, elle manque de moyens. Terrible. Mais on peut se dire que dans ce cas-là, s'ils font une première comme ça, c'est qu'il a dû pousser le bouchon un peu loin.
Oui. Alors après, tu as aussi, encore une fois, des possibilités d'appel, sur-appel, changement de cours, etc. Et en fait, tu as des possibilités de recours qui sont certainement aussi trop grandes et qui empêchent que certaines affaires soient jugées. Et ça aussi, c'est un problème. L'arrêt du jour.
La production de bouteilles d'un litre d'eau gazeuse Perrier a été suspendu en raison de problèmes sur plusieurs sources. Pour sa part, la maison mère de Nestlé Waters évoque une opération de maintenance régulière. Mais on sait que l'entreprise a déjà dû cesser d'exploiter en avril l'un de ses forages à la demande de l'État et détruire au moins 2 millions de bouteilles, et ce après la découverte de bactéries d'origine fécale dans ses sources. L'exploitation de deux autres puits utilisés pour produire de l'eau minérale naturelle a été depuis suspendue pour désinfection.
Ça vous inquiète, Perrico, parce qu'on se dit que, ok, là, c'est Perrier, mais c'est d'autres marques aussi.
Alors, c'est le phénomène qui m'inquiète. Ça veut dire l'urbanisme aujourd'hui qui s'étend sur des zones où il y avait des gisements d'eau de source ou minérale, qui doivent être totalement purs. C'est une des fiertés de la France. Oui. On a le patrimoine avec certains pays européens, mais nous, dans notre diversité, et je suis un grand dégusteur d'eau, donc je peux vous dire que je la reconnais à l'aveugle, l'eau minérale. Ça veut dire que les gisements sont touchés par un urbanisme qui n'arrive pas à contrôler la canalisation des égouts, et vous avez l'eau des toilettes qui va dans
c'est embêtant.
C'est très emmerdant.
Il faut savoir que pour tout ce qui est eau de source, eau minérale, il est interdit de traiter ces eaux.
Ah non, mais c'est...
On n'a pas le droit
de... Ah bah non, parce qu'elles sont minérales.
Non, mais il faut le préciser. Voilà, on n'a pas le droit de les désinfecter, donc elles doivent être restées pures.
Et c'était validé par l'Académie de médecine, c'est marqué sur l'étiquette. C'est un trésor que nous avons. Si vraiment, non, c'est pas possible.
Ça vous rappelle rien, une pub en 1990 qui avait été faite par Seguela avec une bouteille de Perrier qui pleurait, un chapeau mexicain qui disait pardon. En 1990, aux États-Unis, on a retrouvé du benzène. Dans les bouteilles de Perrier. Il y avait déjà eu un scandale aux États-Unis.
C'était une erreur humaine. Par la mise en bouteille.
Ouais, c'était quand même Perrier.
Ça avait été terrible. La maison Perrier avait perdu. Nestlé avait racheté à cette occasion-là.
Ouais. Finalement, il y a moins de risques avec l'eau du robinet, parce que là, pour le coup, elle est extrêmement...
Ah, vous mourrez d'autres choses.
Ça dépend où.
Vous mourrez d'autres choses.
Moi, je bois l'eau du robinet.
Quand je dis mourrez, il y a toujours des produits... Non, il y a du chlore.
Oui, mais elle est potable.
D'accord, mais est-ce que tu préfères... Moi, je préfère... Enfin, je ne vais pas vous faire un « tu préfères » qui est le podcast d'Estelle Midi. Tu préfères le chlore ou les matières fécales. Mais je veux dire, à choisir, je prends le chlore.
Et surtout, c'est une marque qui s'est basée sur la pureté, en plus.
Sud de la France, pardon, des études récemment, très officielles, montrant que dans certains endroits, l'eau du robinet, il y avait des problèmes aussi. Voilà.
Normal.
Oui, mais on est quand même obligé de boire. Enfin, j'aurai un moment de boire de l'eau. Parce que sinon, on va mourir.
Maintenant, je sais pourquoi.
Ça va être de pire en pire.
La crise du jour, Rémi.
Le nombre de faillites d'agences immobilières explose et il devrait dépasser son record d'attente de la crise de 2009. Avertissement lancé par la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM. Entre mai 2023 et avril 2024, 1120 agences ont fait faillite, soit plus de deux fois plus en un an, plus 114%. Les conséquences sur l'emploi touchent surtout les agents commerciaux, on le sait, qui sont à leur compte très souvent et rémunérés à la transaction. Leur nombre a fondu de 15% en moins d'un an.
Non, je vais dire un truc terrible, mais est-ce qu'il n'y avait pas trop d'agences immobilières?
Si.
Parce que dans certaines rues, t'as l'impression qu'il y a 10 agences, quoi. Donc c'est pas possible de continuer comme ça.
Bien sûr, ça veut dire que le marché a une forte stagnation et que donc l'activité se résout. Il y a aussi beaucoup de... On les sollicite de moins en moins. Oui. Les notaires s'y mettent aussi un petit peu. Je vois les cabinets d'assurance vont fermer parce que les banques font de l'assurance. Et donc les cabinets d'assurance. Donc on est en train de tuer des filières. Justement parce qu'il y a des gens qui peuvent faire de la concurrence déloyale.
Là, c'est la crise immobilière qui est directement en cause.
La crise immobilière est en cause, mais moi je suis étonné depuis quelques années que ce secteur ne soit pas plus en crise que cela, parce que je suis étonné que les ventes de particuliers à particuliers ne se développent pas davantage, parce qu'aujourd'hui avec Internet, Dieu sait que c'est très 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 facile de vendre un bien sans passer par une agence. Alors évidemment, c'est toujours un peu, voilà.
C'est moins de paperasse, en fait.
Vous avez pas la qualité de conseil qui va avec, mais c'est moins de paperasse et puis c'est moins de.
Mais c'est moins de paperasse, oui, quand tu passes par une agence, c'est quand même une sécurité. Tu leur files les clés. Oui, il faut visiter ton bien.
Financièrement, ouais. Je suis désolé, mais ça fait une belle différence.
Les transactions sont devenues difficiles, le financement est de plus en plus difficile, les contraintes sont de plus en plus grandes, donc c'est pas étonnant et ça devrait continuer en réalité. Ça va certainement continuer, on va observer ça, mais.
Oui, mais effectivement, fini, hein. mais t'as tellement d'agences. Moi, je m'étonne. Oui. En fait, qui finalement, alors c'est déjà énorme, ce nombre de faillites, mais il y a certaines rues, mais t'as l'impression que c'est y a que les agences, les opticiens et des prothèses auditives. Donc, il y a quand même un moment où. Les coiffeurs souffrent aussi. Il y a de moins en moins de coiffeurs.
Je dis ça parce que dans la France périphérique, c'est souvent les derniers commerces qui résistent.
Ah oui. Et l'instabilité politique du moment favorise pas du tout les achats.
Non, ça va pas gêner le coiffeur a priori.
Mais sur les agents immobiliers, pardon.
Mais sur l'immobilier,
les gros investissements.
Oui, et je suis d'accord avec toi.